33. De nos délibérations. Nous avons quelqu'un qui va peut-être nous rejoindre en ligne, je crois.
Of course, Kim gets it in stereo.
Et vous voyez, c'est un petit peu en stéréo, en tout cas, c'est sur deux écrans. Donc, Kim va nous parler de l'automatisation du flux de travail pour la zone racine. Donc, il va y avoir une démonstration qui va être faite. Merci beaucoup. Ce que j'ai l'intention de faire aujourd'hui, c'est de rester simple, de vous donner un aperçu de ce système d'automatisation, une simple démonstration. Je suis sûr que vous aurez des questions intéressantes et je me ferai un plaisir que d'y répondre tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions et j'y répondrai. Donc, pour revenir un petit peu en arrière et faire le point, nous avons déployé un système qui s'appelle le système RZM, qui est totalement déployé. Et ce système gère tout le flux de travail, le flot de travail pour les gérants du TLD. C'est un système qui a mis du temps à être mis en œuvre. On en a beaucoup parlé de sa conception dans la communauté, notamment, je me rappelle, mais en 2003, on en parlait déjà. Et on a travaillé à l'ICANN aux environs de 2006 et nous avons, pendant 3 ans, développé ce système et ces 2 dernières années, nous avons eu, d'une manière prolongée, beaucoup de tests qui ont été réalisés. Et certains raffinements au logiciel, mais au jour d'aujourd'hui, nous avons un système totalement déployé, un système RZM totalement déployé. Tous les gérants du TLD utilisent ce système. Et je vais vous donner plus de détails à ce sujet. Depuis le début de l'année, toutes les modifications ont été mises en place avec succès. Donc, le lancement du système, au début de l'année, nous avons commencé les opérations en parallèle au début de l'année. Donc, nous avons eu un changement de la zone racine. Toutes les demandes ont été effectuées manuellement et par l'intermédiaire du système. Nous avons également utilisé ce processus, donc en duplication. Le résultat, c'est que nous avons suivi les modifications, nous nous sommes assurés qu'il fonctionne de la même manière qu'un système manuel. On a assuré que l'automatisation fonctionnait bien et nous avons comparé les 2 systèmes. Donc, est-ce que cela générait les mêmes données? On s'est posé la question du côté manuel et du côté automatique. Donc, après avoir planifié de manière réussie le système, nous avons pris la date du 21 juillet pour automatiser, donc véritablement réaliser l'automatisation. Plutôt que le processus manuel, on est passé principalement à un processus automatique. Donc, la grande date, c'était le 21 juillet. Nous en avons parlé d'ailleurs à Singapour, si vous y étiez, à cette réunion de l'ICANN. Et tout s'est bien passé, nous avons pu respecter cette date du 21 juillet, comme nous nous y attendions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en juillet? Eh bien, VeriSign, l'entreprise VeriSign, qui travaille en tant qu'éditeur et publicateur de ce DNS, eh bien, a commencé à prendre la zone générée par le système plutôt que la zone générée manuellement. Donc, il y a eu des modifications au 21 juillet. Si vous aviez un problème, si vous demandiez un changement, le personnel de l'ICANN vous envoyait un email manuellement et vous demandait consentement, essayait de vous aider au niveau technique. Après le 1er juillet, c'est tout le système qui automatiquement gérait donc les demandes clients, les différentes requêtes qui nous arrivaient et qui nous notifiait donc de toutes ces demandes. Donc, on a eu une interface basée sur le web qui nous a permis d'aider les utilisateurs finaux. Pourquoi au départ, on n'a pas eu un accès direct au site web? Nous voulions une période initiale pour voir comment ça se passait. Et donc, nous avons envoyé des invitations entre le 1er août, du 1er août au 15 septembre. Les contacts TLD avaient 30 jours pour indiquer donc leur nom de code et leur mot de passe et leur identifiant d'utilisateur. Sur 474 contacts, 40%, et même un peu plus, ont donc utilisé ces mots de passe et identifiants de nom. Donc voilà un petit peu ce à quoi ça ressemble sur un diagramme, le nombre de demandes de zones racines qui ont été inscrites et reçues. Vous voyez les totaux, vous voyez à peu près 50 par mois et une augmentation de 74 juste au début octobre. Par l'intermédiaire d'un email, évidemment, avant l'automatisation, tout arrivait par email, mais après septembre, maintenant, nous voyons que c'est principalement par le web que ces demandes arrivent du 1er au 15 octobre. Donc, quels sont les éléments? Les éléments de ce système, il y a plusieurs éléments pour que ce système fonctionne. On l'appelle RCM, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que cela. C'est plusieurs systèmes indépendants qui travaillent ensemble et qui interagissent. Donc, c'est un service pour utilisateurs. C'est une application ICANN pour une interaction avec les utilisateurs finaux. Nous avons l'NTIA, le RZMS, c'est des clients EPP. Nous avons un système interne pour le flot de travail, pour les questions administratives gérées par le personnel. Donc, ce qui est le plus intéressant, c'est le système des utilisateurs finaux, qui est le plus important. Lorsqu'il y a une modification d'apportée, eh bien, il y a un suivi qui est effectué. C'est un service interne qui gère les transactions et qui permet au personnel de l'ICANN d'avoir des interactions avec le système. Et nous intégrons cela avec le système VeriSign et avec le système de client EPP. Et en fait, cela agit comme un serveur EPP. Qu'est-ce que cela fait? Eh bien, il s'agit d'un processus de gestion du flow de travail, du workflow. J'en ai déjà un petit peu parlé de tout cela. C'est un système d'automatisation pour le suivi des changements de racines et de ce processus. Je crois que c'est tout à fait tangible. On peut en retirer beaucoup. C'est comme cela que cela fonctionne. Et ce que nous avons fait, c'est de voir toutes les étapes, de suivre toutes les étapes et d'automatiser un maximum d'étapes. Donc, on peut donc automatiser, plutôt que d'avoir un personnel qui fasse manuellement une vérification, eh bien, le système peut automatiquement le faire. Donc, il n'y a plus besoin de faire participer le personnel à cela. Donc, confirmation des contacts, par exemple, initialement par email, maintenant par l'intermédiaire même du système, du web. Bon, il y a des fois où nous devons prendre une confirmation de contact par le téléphone, par des lettres, des courriers. Parfois, on doit encore le faire manuellement, le staff doit travailler manuellement, mais par défaut, c'est fait automatiquement sur le web, avant qu'on passe, s'il y a des problèmes, à un système manuel. Donc, la nouvelle interface dont je vous ai parlé fournit de nouvelles manières de travailler pour les gérants du TLD. Avant, on travaillait beaucoup par email, envoyait même parfois des fax, des télécopies, ou même manuellement demander une demande. Mais maintenant, on peut simplement se connecter à ce site web et par l'intermédiaire de l'Internet, eh bien, gérer la situation, des modifications, et c'est assez intuitif. Vous pouvez suivre très facilement les demandes. Et voilà, maintenant, nous allons vous donner une petite démonstration. Je vais rentrer dans le système pour vous le montrer, si vous ne le connaissez pas encore, pour vous donner une idée de ce à quoi cela ressemble. Donc, je vais sur un navigateur et je vais sur rzm.iana.org. Hein. On arrive donc sur le site de l'IANA, on va se connecter, nom d'utilisateur, et donc il y a 13 domaines de la zone racine, de la racine qui sont gérés, donc là, dans ce contexte, je peux me brancher au système automatisé et continuer donc. Donc, c'est un petit peu lent à cause de la connexion Internet. On est en visite, je crois. Ah, j'ai oublié mon mot de passe. Ça arrive souvent. J'ai encore oublié même mon nom d'utilisateur, mon identifiant. Voilà, nous y sommes. Donc, lorsque vous arrivez sur le système, on vous présente maintenant une liste des domaines que vous pouvez gérer, dont vous êtes responsable en tant que contact technique ou contact administratif. Moi, je suis le contact technique de l'ARPA, de .int et de des tests, vous voyez tous les tests qui existent pour l'IDN. Vous voyez le rôle, la gestion des utilisateurs et d'une manière plus importante, vous avez la possibilité d'analyser et d'éditer une excellente méthode. Vous pouvez donc descendre plus bas et voir les demandes qui existent et également vous avez vos demande qui s'appelle Glue Records, donc archive littéralement de colle, glue. Mais s'il y a un changement dans un nom de serveur que vous utilisez également, par exemple, si on change l'adresse IP, vous devez confirmer cela, parce que vous n'avez pas fait la demande, vous devez la confirmer. Si vous avez le même serveur, il va y avoir donc ces demandes qui vont être faites. Mais c'est pas très clair. Je vois qu'il faut qu'on change un petit peu les termes qu'on utilise, qui sont trop techniques, trop spécialisés. Donc on va revoir cela. Donc je vais cliquer sur Review Edit et je vais arriver sur une autre page. Et ça, c'est le cœur de cette interface que nous allons voir. Et ça va vous montrer, en fait, ce qu'il y a dans la base de données IANA, les noms de domaines de premier niveau. Vous voyez, on demande ce domaine, le domaine n'existe pas encore, on doit résoudre cette requête, n'est pas encore acceptée. Donc je vais revenir en arrière et essayer quelque chose d'autre, parce que ça montre bien qu'il y a une demande en attente. Maintenant, en voilà une autre, vous voyez, ça c'est une demande de domaine. Voilà le whois, comme on l'appelle, au niveau administratif, au niveau technique, différents contacts. Vous voyez l'adresse de l'ICANN. Vous gérez cela. C'est bien vous, l'administrateur, en tant que IANA. Ça, c'est partagé. Là, vous pouvez surligner cela. Vous avez les encres en qui on a confiance, Trust Anchors, et vous pouvez éditer donc les fichiers de cette manière en cliquant sur Edit Record. Et lorsque je suis sur cette nouvelle page, je peux faire le changement que je désire. Par exemple, l'organisation, on va la changer. On va là, on a IANA, je ne sais pas Quelle est cette adresse? Ah, c'est une boîte postale, 1342, dans la rue Walker, numéro 2. Ça, c'est une adresse postale à Swakopmund. Et ça, c'est pas aux États-Unis. C'est en Namibie. Donc voilà, j'ai changé les modifications acceptées, sauvegardé les modifications. Là, je repars sur cette page et vous voyez que ça a surligné dans une autre couleur ce que vous avez modifié. Et voilà à quoi ça va ressembler. Donc, je n'ai rien soumis pour le moment. Donc, ça me dit, vous avez effectué des changements à ce domaine. Lorsque vous êtes prêt, donc, vous pouvez cliquer là-dessus et là, accepter ces changements. Donc, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez faire des changements. Et vous pouvez faire différentes éditions, différents changements. Et une fois que je suis satisfait de tous ces changements, eh bien, je vais sur Complete, je clique sur Complete, et là, c'est accepté, c'est entériné et autorisé. Là, je vais le faire pour vous le montrer. Boum. Alors, les changements proposés. Analyse des changements proposés, ça nous a expliqué exactement qu'on a fait une mise à jour de l'adresse de contact, qu'on a changé cette adresse de contact, on a changé donc le pays des États-Unis et la Namibie, comme vous le savez, et maintenant nous avons mis le nom de Eberhard Lisse, et nous devons mettre donc notre email. C'est la personne qui a soumis la demande et la requête, on doit mettre son email, donc pour ma part, je peux mettre mon adresse, kimdavis@icann.org. Et là, j'aurai donc en plus un email, un courriel qui me sera envoyé et qui me fera savoir que j'ai déposé cette demande. Donc, je continue, je poursuis. Et donc, ça indique bien que ça a réussi, que tout a bien été logé dans le système. Et le système, maintenant, va commencer à gérer cela. Et avec une méthodologie conventionnelle, ça devrait aller plus vite au niveau de l'automatisation. Il y a des contrôles techniques qui sont effectués, contrôles des contacts, il n'y a pas eu trop de changements de nombre. Enfin, ça vérifie tout, vous voyez. Automatiquement, ça va tout vérifier. Et on repart et nous voyons donc cette nouvelle demande. Donc, il faut qu'il y ait un consentement, une autorisation. Il faut que ça soit soumis. Il y a des emails qui sont reçus. Il faut qu'il y ait une confirmation de contact. Puisque j'ai donné mon adresse email, je dois la confirmer. Une fois qu'il y aura l'autorisation de donner, eh bien, ça va passer au niveau supérieur. Eh bien, s'il y a un problème de sécurité, on peut retirer cette requête et en fait l'annuler. Donc, rien n'est encore finalisé là. Vous pouvez très facilement revenir en arrière et changer d'avis. Mais voyons un petit peu à quoi ressemble cette domaine. Nous voyons une nouvelle fois que c'est en attente, et nous voyons que les confirmations ont été reçues pour le contact administratif. En fait, là, non, ce n'est pas surligné, la case n'est pas cochée, ce n'est pas coché, donc ils n'ont pas reçu de notification. Donc si je reviens en arrière, je repars. Voilà à peu près à quoi ça ressemble et comment ça marche. Donc hier, c'était simplement pour un nom de serveur. Voyons un petit peu à quoi ça ressemble. Excusez-moi. Si je vois, je veux voir à quoi ça ressemble. Aperçu. Eh bien, il y a des problèmes techniques qui ont été détectés pour des archives qui ne sont pas les mêmes, donc des problèmes ont été trouvés, donc il faut qu'il y ait un technicien qui se penche un petit peu là-dessus et qu'il fasse le nécessaire pour que ça soit acceptable et pour que ça soit réparé. Je crois que toutes les heures, ça va être recontrôlé automatiquement par le système, ça va être reconfiguré. Ou bien vous pouvez forcer un test en cliquant sur ce bouton de couleur bleue. Et nous voyons ici donc l'historique de la requête lancée le 23 octobre 2011. C'est aujourd'hui d'ailleurs. Et voyons un petit peu si on appuie sur ce bouton où on va se rendre. Eh bien, les anciennes demandes archivées. Vous voyez toutes les demandes qui ont été gérées par le système. Donc, j'ai commencé au début de l'année. Ça montre tous les changements qui ont été effectués dans le système par rapport aux domaines qui ont été gérés. Vous voyez toutes ces demandes, vous voyez les dates, vous voyez les changements, vous voyez les statuts, vous voyez les numéros de référence, le domaine de test, quand est-ce que ça a été inscrit dans le système, la personne qui a créé la demande, le statut actuel. En général, c'est fermé au niveau administratif ou achevé, et les derniers changements avec les dates de ces changements. Donc, regardons d'un peu plus près celui-ci. Vous voyez, ça, c'était une signature d'ajouter, une clé d'ajouter. Donc, voilà tout l'aspect technique. Les confirmations ont été reçues par les contacts administratifs et les contacts techniques. Et nous voyons donc l'historique de la demande. Tout a été fait, regardez, le même jour, le 17 juin 2011. Tout cela a été effectué. Contrôle technique, confirmation du contact, tout cela a été réglé, confirmation, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir ces requêtes, voir tout le travail technique qui a été effectué à ce niveau pour toutes les transactions. Et vous pouvez le faire en temps réel. C'est très efficient comme système automatique. Donc, je ne sais pas si j'ai parlé de tout, mais en tout cas, ça c'est un aperçu rapide et simplifié de cette nouvelle interface basée sur l'Internet. Et ce qui est important, c'est l'automatisation et toute demande passe par le système d'automatisation et il y a également ce nouveau système basé sur l'Internet avec lequel on peut avoir des interactions et qui est tout à fait utile. Donc, voilà, je reviens à ma présentation. Qu'est-ce que l'on va faire à l'avenir? Eh bien, je crois que vraiment, c'est un produit d'avenir. On va voir un petit peu quel sera le feedback et les retours qu'on aura sur ce système. C'est une grande avancée, mais je crois qu'il y aura des problèmes qui vont se poser, peut-être qu'il y aura des choses qui ne seront pas claires. Vraiment, on apprécie beaucoup votre feedback, votre retour, pour voir si ça fonctionne bien. Une autre considération importante, c'est de voir s'il y a des limites qui ont été mises sur le système initial. Il faut être autorisé à utiliser ce système. Donc, c'est les gérants des TLD, les personnes qui gèrent les domaines, qui peuvent soumettre des requêtes. Mais avec le nouveau programme, les GTDLD, qui va être très important pour l'ICANN, je crois qu'on va demander et recevoir beaucoup de dossiers de demande de nouveaux noms de domaines de premier niveau. Donc, évidemment, il y a des personnes qui n'auront pas encore été autorisées, qui vont arriver dans ce secteur. Et donc, il va falloir voir ce que l'on fait, comment on gère le système d'autorisation pour avoir accès à ce système. Donc, ça fait partie de du travail d'avenir, mais je dirais qu'on attend d'avoir un retour de votre part sur ce que vous pensez. Voilà mon résumé, je serai prêt à répondre à vos questions.
Nigel, en premier, je pense que c'est vraiment une étape importante qui va aller de l'avant. Je suis surprise que ça a pris 9 ans, 8 ans pour qu'on en arrive là. Mais bon, c'est de l'histoire, c'est du passé. Il y a des problèmes fondamentaux, un de ces problèmes techniques. des problèmes techniques. Ce sont des décisions de politique qui ont été prises unilatéralement durant les dernières années. Le moins important de ces problèmes, c'est les demandes pour qu'il puisse y avoir un veto, pour que les gens puissent exprimer leur veto, les managers de CCLD puissent exprimer leur veto. La plupart de ces gérants CCLD Europe sont des employés des CCTLD, mais bon, vous savez, nous savons dans l'histoire qu'il y a beaucoup de situations différentes pour tout le monde. Et aussi au niveau technique, ça peut être pire. Ça va être les demandes qui sont apparues durant les dernières années, tous les gérants de CCTLD qui utilisent un nom particulier de serveur ont le droit de veto pour pouvoir changer les adresses. Si vous retournez dans les bases de données avant Yann, avant que l'ICANN prenne la relève, c'était géré par Network Solution. L'opérateur qui faisait... c'est l'opérateur qui prenait la décision. Ce n'était pas forcément le gérant des CCTLD. Ça pouvait être un ESP ou ça pouvait même être un volontaire. Les nouveaux CCTLD qui arrivent et les compagnies font ça elles-mêmes, vous aurez peut-être des situations dans lesquelles vous aurez 200 ou 300 TLD qui vont utiliser le même nom de serveur. Donc, lorsque le fournisseur back-end va vous dire que le nom du serveur qu'il opère a changé son adresse IP et vous ne changez pas vous-même l'adresse IP et que vous attendez que vous allez avoir les 200 ou 300 confirmations, ça va être impossible. Où commencer? Alors, la première chose, je suis d'accord, c'est tout à propos des politiques. Nous avons mis en place ces procédures parce qu'elles existaient comme elles existaient déjà. Nous pouvons avoir un débat là-dessus. Je serais contente de débattre là-dessus, mais je pense que ça a à voir avec les mises en place des pratiques du système. Mais quand il s'agit de les autres problèmes, je les reconnais, ces problèmes. Mes suggestions, informellement, pour le premier problème, ce serait de séparer les notions des contacts avec des contacts administratifs et des contacts autorisés. Nous devons créer un système qui pourrait soutenir ça. Donc, pour les contacts administratifs, ce serait juste pour les listes et ça permet aux managers, aux gérants de GTLD de. Il faut que les CCTLD, les gérants, qu'il puisse y avoir un certain nombre qui soient autorisés, qu'on puisse avoir leur nom sur une donnée de base de données, mais que cette liste ne soit pas publiée dans les WIS, que ce soit les seuls qui soient autorisés pour faire des changements, des requêtes, pour avoir des requêtes de changement. Ça, c'est mon opinion personnelle, mais c'est pas moi qui décide. Si je peux faire un commentaire sur cette objection, je crois que c'est une bonne suggestion. Si vous étendez ça au nom de serveur et que vous séparez tout ça, ça risque de résoudre le problème. C'est un défi, c'est un problème défi, parce que efficacement, on n'a pas de confiance, on n'a pas de relation de confiance avec les noms de serveurs. Je pense qu'il y a d'autres moyens d'adresser ce problème. Cette façon-là est facile, mais d'un côté pratique, d'avoir une base de données complètement séparée. Je crois qu'il y a à peu près 800 hôtes individuels, la dernière fois que j'ai regardé, 800 contacts supplémentaires qu'on devrait conserver d'une façon indépendante. Il y en a beaucoup avec tous les gérants TLD. C'est pour maintenir tout ça indépendamment. Dans les cas normaux, ça rendrait les choses même plus compliquées. Donc, ce qu'on a considéré aussi, c'est est-ce qu'on peut encourager une politique d'élaboration au lieu d'avoir 100% d'acceptance, qu'on pourrait avoir des seuils ou seulement 25% ou quelque chose comme ça. La raison pour laquelle nous avons 100% d'acceptance des requêtes au niveau des changements, c'est que la notion, s'il y a des changements sans que le TLD soit et connaissance du changement, ça pourrait poser des problèmes. Si le TLD ne met pas des mises à jour tout de suite des nouvelles adresses IP, le changement de l'adresse IP va peut-être apporter des mises à jour vis-à-vis du serveur principal. Beaucoup de TLD, beaucoup de gérants TLD n'ont pas de relation avec les noms de serveurs qu'ils utilisent. Nous avons des opérateurs de noms de serveurs qui nous disent que les managers de TLD ne leur parlent même pas. Et moi, je suis une des autorités, mais il y a un problème là. Ça va au-delà de ce que l'ICANN fait. C'est un problème de manque de communication. C'est une des manifestations de ce problème. Mais il y a d'autres problèmes de ce côté-là. C'est bien, merci King. C'était un produit très impressionnant et je pense que c'est plus important moi-même que ce soit fait correctement, mieux que rapidement. Donc je pense que j'apprécie le temps que ça prend de le faire. De ce côté nom de serveur, je n'aimerais pas changer ce système du tout. Je pense que l'intégrité de la zone racine a un bénéfice de ne pas avoir des IP à des adresses IP qui sont partagées. Et donc, tous les TLD qui doivent avoir son propre nom de domaine ou adresse IP, chaque système qui pourrait rendre les choses difficiles pour que les gens partagent les mêmes noms de IP, c'est une bonne chose. Merci. Oui, je pense que je voulais parler de ça, en fait. Vous ne pouvez facilement pas éviter cette situation. Il faut... Et ce ne sont pas des noms partagés, c'est des noms d'hôtes partagés. Et je crois que c'est une bonne idée et je pense que Ayana pourrait passer à travers ces dates de données et puis encourager ça. Je sens que si on va faire les choses qu'on ne doit pas faire, on va avoir des problèmes. Nous avons parlé de ça par email. Pourquoi est-ce que tous ces noms sont si difficiles? Les noms des utilisateurs sont si difficiles à comprendre pour moi. C'est des noms qui sont comme ça. Je dois les garder sur mon ordi comme ça. Si on a généré des noms d'utilisateurs comme ça génériques, on a éliminé toutes les caractères qui pouvaient être confus, rendre les choses plus confuses. La raison pour laquelle on l'a fait comme ça, c'est simple. C'est parce que on n'avait pas besoin de demander à tous les gérants TLD avant de leur demander qu'est-ce qu'ils voulaient comme nom d'utilisateur. Je pense que un des défis que nous avons avec Yana, c'est que nous avons des aptitudes techniques très amples, très larges. Il y a beaucoup d'habilités. On a des ministres de la communication qui ne savent pas du tout de quoi ils sont responsables, par exemple. C'est pour vous dire, nous avons à assumer qu'il y a quand même... Il y a des managers de TLD qui vont essayer de trouver des identifiants faciles, qui sont faciles à se rappeler, mais ces identifiants ne sont pas toujours sécurisés. Donc, une fois qu'on a un nom d'utilisateur qui est clair, qu'on le connaît, qu'on ne peut pas être compromis, il ne faut pas qu'on rende les choses faciles. C'est sage de penser que ce n'est pas une politique de sécurité sur laquelle on peut se fier. On aimerait bien avoir de votre feedback. Si ces noms comme ça qu'on vous donne, qui sont compliqués, c'est un problème, si ce n'est pas fonctionnel, si vous voulez avoir un endroit où vous pouvez aller mettre à jour cet identifiant, on aimerait avoir du feedback. On pourrait peut-être trouver un point de départ pour des noms d'utilisateurs. Maintenant que l'on voit un couple de ce que j'appelle des îles d'automation entre les parties incluses, entre les deux côtés, vous voyez que les managers CCTLD seront capables de déterminer ou de prédire quand un changement dans les racines prendront place? C'est une bonne question. Je pense que c'est un petit peu tôt d'en parler. Ça dépendra de comment les choses vont se passer au niveau à la base. Le grand problème, c'est que le ICANN ne contrôle pas le processus entier. Nous n'avons pas d'engagement. Nous ne savons pas exactement combien de temps ça va prendre. Je ne suis pas une autorité. Je sais que nous avons un contrat, mais il y aura des changements qui doivent être pris d'ici. Je crois qu'il y a 3 jours pour faire des changements, mais en pratique, c'est bien plus court que ça. Une des choses intéressantes que veut dire l'automation, c'est que les changements se passent plus rapidement, mais il y a moins d'attente, il y a moins de temps pour les TLD pour qu'ils se préparent. Nous avons eu ce problème-là quelquefois avec les managers de TLD. Ils voulaient savoir combien de temps ça allait prendre pour que le changement soit mis en place. Je sais que j'ai discuté ça. C'est la notion que peut-être on devrait introduire un délai. On ne peut pas vraiment contrôler de quand ça va se passer. Mais on leur donne un peu d'avance et on leur donne un délai, on leur donne une date. Vous pouvez passer à travers toutes les formalités pour mettre en place. Et puis après, on pourrait peut-être trouver un mécanisme mettre en place où on aurait un délai, une date que l'on pourrait mettre en place. En tant que manager, j'ai été élu, si je faisais un changement et que je pouvais dire, bon, mais je ne veux pas que ce soit fait avant demain, bien sûr que ça prendra plus de temps que ça. Je ne peux pas contrôler ça. Mais si vous planifiez bien à temps, vous dites, je veux faire une transition, par exemple, au 1er décembre, je le soumets bien à l'avance, je fais les choses comme il faut, ça va rester dans le système. Alors, à la dernière étape, au 1er décembre, ce sera fait. Peut-être que ça pourrait aider pour les ordres pour le genre de délai que les managers de TLD voudront. Enfin, on s'améliorera avec le temps. Je pense que ça deviendra... On peut estimer les délais plus facilement de mise en place, finalement, mais pour l'instant, on ne peut pas dire quand les changements seront faits. Je voudrais avoir une décision sur les politiques prises plus à l'avance. Je pense, nous avons déjà pensé à ça. C'était un problème. Nous avons ce qu'on a montré tout à l'heure, ces petites coches qu'on met dans les cases techniques. C'est des changements routines, c'est de la redélégation qui prendra peut-être quelques mois. Des techniques, les situations techniques vont changer. On s'en occupe. Alors, vous pensez qu'une solution, ce serait de s'assurer que tous les changements des zones racines n'apparaîtraient pas avant telle date? Est-ce que ce ne serait pas une option de pouvoir choisir un délai ou une date avec laquelle on serait confortable? On pourrait dire 7 jours, 3 jours, 4 jours. Est-ce que vous seriez confortable de nous dire que ce processus pourrait être mis en place et qu'on pourrait avoir une période de temps comme ça? Où vous pourriez offrir une interface qui serait applicable pour les managers CCTLD pour qu'ils puissent dire que le processus, ils le veulent faire à telle date. Est-ce que je voudrais bien rendre les choses qui soient claires? Mon problème, ce n'est pas que je voudrais avoir les choses faites rapidement. Mon problème, c'est que je voudrais pouvoir déterminer la date du changement. Est-ce que ça pourrait être géré? Est-ce que vous pourriez être capable de choisir le délai nécessaire entre les parties qui sont engagées dans le procédé, entre les parties prenantes? Encore, nous avons un défi là, parce que nous avons 2 autres parties qui ne sont pas engagées vis-à-vis de nous pour faire les choses à un certain montant de temps. On a le NTIA qui a son propre processus à suivre. Donc, pour ce que nous faisons à ICANN, on pourrait le faire en partant du fait que leur demande a été faite normalement, bien, d'une façon juste, et qu'ils ont passé le test, que la requête a passé le test. quand nous avons parlé d'automation dans les derniers mois, si ICANN a eu du succès à obtenir ce contrat, ça veut dire que on devra faire plus de rapports avec plus de détails qu'on le fait déjà. On pourra pouvoir détailler les étapes qui sont utilisées dans le processus. On pourra faire une moyenne du temps qui est utilisé. On pourra peut-être s'engager. On pourra dire que 80%, on peut dire maintenant que 80% des demandes prennent 2 à 3 jours et les autres à peu près 8 jours. Donc, bon, je ne sais pas, ce n'est pas l'engagement que vous voulez qu'on prenne, c'est juste une moyenne, mais ça vous donne un peu une idée de combien de temps cela va prendre.
Kim, de votre brillante présentation. Moi, on m'appelle Bobé Poka. Je suis ingénieur de télécommunication, en système de télécommunication. C'est la première fois pour moi de me présenter dans ce forum concernant l'ICANN. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir le système de processus de redélégation. Puisque au Tchad, nous avons entamé ce processus depuis presque une année. Jusqu'à présent, nous sommes dans la phase de ce processus. Alors, je voudrais bien, par ce forum, si l'ICANN pourrait vraiment nous aider à ce que ce transfert soit d'une manière un peu rapide, parce que, entre-temps, nos serveurs sont à l'état de panne. Et nous, l'ICANN nous avait demandé qu'on fasse une remise à niveau de ces équipements. Effectivement, c'est ce que nous sommes en train de le faire. Et jusqu'à présent, il y a d'autres conditions de temps en temps que l'ICANN nous pose. Alors, je pense que, à la suite, n'est-ce pas, de ces forums, si l'ICANN pouvait davantage nous aider à faciliter cette tâche, je vous remercie.
Sure.
Bien sûr. Le processus de redélégation est autre chose. Il faut redéléguer le processus. Ce que l'on puisse faire pour vous aider avec de l'assistance, pour vous expliquer le processus, vous fournir des explications sur les demandes, sur ce que nous sommes très heureux. Le défi, quand on fait la redélégation, c'est que les applicants ne posent pas de questions. Ils font leurs propres choses à côté. Ils assument qu'ils ont compris le processus. Ils ont assumé. Et après, c'est trop tard. Donc, ça ne correspond pas avec ce que... Ils font des choses qui ne correspondent pas avec ce que l'on cherche. Nous ne voulons pas retarder le procédé. Nous sommes contents de vous aider, mais il y a des limites. Nous devons être neutres. Nous ne sommes pas là pour être l'avocat d'une partie dans un pays. Nous ne voulons pas monter les groupes contre les autres. Les cas de transfert, on ne peut pas prendre de côté. On ne peut pas prendre un côté ou l'autre. On ne peut pas être trop inclus. On peut juste donner des conseils pour la redélégation. Et on vous les fera passer. Vous demandez des informations sur le processus de la redélégation. Ah ben, qu'est-ce qui s'est passé là? Excusez-nous, mais son micro, il coupe. Son micro coupé. Je pense qu'il a dit qu'on va en parler dans l'après-midi.
Demande.
C'est listé sur le programme. Regardez dans le programme pour cet après-midi.
OK.
Maintenant, plus de questions. Maintenant, voilà pour la partie embarrassante. Le présentateur hôte n'est pas là. Il doit être... coincé avec l'Assemblée générale. Il écoute probablement le discours du président, ce qui veut dire que nous allons aller manger et nous revenons à 1 heure. pour la table ronde sur les CCTLD nous aurons aussi un modérateur pour ça. Merci.
My understanding is that Sira pays for a boxed lunch for us.
Nous avons des pique-niques qui sont fournis aujourd'hui. On pourrait prendre quelqu'un à point C. Je ne pense pas exactement comment ça marche.